Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse ce vendredi 12 décembre 2008. Trois thèmes sont au menu de l'émission de ce soir. Les négociations de Nairobi au Kenya entre le gouvernement et le CNDP, le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la crise financière qui frappe le secteur minier de la RDC. 300 000 emplois sont menacés dans environ 90% des entreprises minières du Katanga. Nous avons trois invités ce soir. Thierry Lévita, rédacteur en chef de Canal Team, une chaîne de télévision mettant à partir de Kinshasa. José Nawesh, éditeur du quotidien chinois Forum des As, et depuis la ville de Beni au Nord Kivu, Nikes Kibelbel, éditeur du journal Les Coulisses, spécialisé dans le traitement des informations relatives à la région des Grands Lacs. Les journaux chinois parus cette semaine ont abordé quelques thèmes tels que les négociations qui ont mis face à face au Kenya, le gouvernement et le CNDP, le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que la crise financière qui frappe le secteur minier en RDC. Comment ont-ils abordé tous ces thèmes? Notre consoeur Kéline Kouté, qui a lu pour nous quelques journaux chinois, nous l'explique dans cette revue de presse.
Bonsoir. La réunion de Nairobi entre le gouvernement congolais et le CNDP de Laurent Kunda figure parmi les titres à la une des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Gros titre à la une du quotidien L'Avenir de ce vendredi, Nairobi s'achauffe. La cause, selon ce journal, l'émissaire de l'ONU a découvert les côtés aventureux du CNDP qui a voulu lui imposer une autre mission que celle lui confiée par l'ONU. Toujours à propos de Nairobi, constate le palmarès, Obasanjo en colère contre Kunda à Nairobi. L'ancien président nigérian, pour qui ce journal, a demandé à Louis Michel, après une escale à Nairobi, d'aller rencontrer Kunda et lui passer le message selon lequel ses exigences des changements des régimes au Congo et des négociations internationales ne peuvent être discutées dans le mandat de la médiation. Selon l'Observateur, après avoir discuté avec Kunda hier, Louis Michel rencontre Joseph Kabila. Quant aux attentes de ses assises de la capitale kenyane, la référence plus a indiqué jeudi dernier qu'il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale. Et donc, Nairobi ne sera pas un autre Saint-Sissi, car selon ce confrère, l'Europe ramène Kunda à Amani. Mais déjà, signale le même journal, l'ombre de Malu Malu inquiète le CNDP. Difficile négociation, pense pour sa part le potentiel qui revenait mardi dernier sur les divergences observées au début de ses pourparlers. C'est pourquoi, écrit le confrère, l'opposition n'y croit pas. Pendant ce temps, la tempête tropique voit quelques points marqués par le CNDP en affirmant Kunda réussit à éliminer les maïmaïs de la course. Autre sujet évoqué cette semaine par les journaux, le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les nouvelles ne sont pas bonnes car, selon la MONUC citée par le palmarès, la situation des droits de l'homme en RDC est alarmante. La tempête tropique du même jour précise sur ce constat, la MONUC met l'État congolais devant ses responsabilités vis-à-vis de la communauté internationale, celle de promouvoir et de garantir le respect des droits de l'homme par rapport aux normes internationales et à la constitution congolaise. Enfin, les journaux sont revenus sur la crise financière mondiale. Selon le phare de ce vendredi, le Fonds monétaire international est disposé à apporter une assistance financière à la RDC pour lui permettre de faire face aux conséquences de la crise financière qui se signale déjà. Conséquence de cette crise au Katanga, selon le potentiel, déjà 5 000 emplois ont été supprimés avec la fermeture des entreprises minières au Katanga. Pourtant, rapporte le quotidien, la province du Katanga continue à courir derrière la rétrocession de ses recettes telles que voulues par le gouvernement central. C'est la fin de ce journal de journaux. Merci de l'avoir suivi.
Merci, Kéline Kouté. José Nawesh, bonsoir.
Bonsoir,
Christophe. Vous êtes l'éditeur du quotidien chinois Forum des As. Peut-être un petit commentaire par rapport au traitement de l'actualité par les journaux chinois de cette semaine. Juste un petit commentaire.
Oui, le seul commentaire, c'est que si on est journaliste congolais, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce qui se passe à Nairobi. Et c'est l'actualité phare de cette semaine. Vous êtes rendu compte de ça en parcourant les journaux au niveau de Radio Okapi. Et en plus, il y a un sujet dont on ne parle pas suffisamment, mais qui me paraît essentiel. Heureusement que on va l'aborder au cours de cet entretien, c'est l'effondrement des scale mining, ce qu'on appelle ces petites carrières minières à petite échelle qui sont nombreuses à Lubumbashi, à Kolwezi, à Likasi et qui ferment les unes après les autres. Et l'effet, disons, dévastateur de ces fermetures sur l'économie nationale et sur la croissance attendue.
Merci beaucoup, José Noël. Thierry Lébita, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de Canal Kin, une chaîne de télévision émettant à partir de Kinshasa. Juste un petit commentaire aussi par rapport au traitement de l'actualité de cette semaine par nos confrères de la presse écrite.
Je voudrais féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a pu finalement récupérer surtout toute la presse écrite. Finalement, tout le monde marche au pas du gouvernement parce que quand les choses chauffaient au niveau de l'Est du pays, on a vu que les journaux de Kinshasa n'étaient pas sur une même longueur d'onde avec le gouvernement. Mais aujourd'hui, il me semble que tout le monde est pratiquement rangé derrière le gouvernement.
C'est par ironie que vous le dites ou bien c'est de façon sincère?
Oh, de façon sincère, hein, mais j'estime qu'il y avait un déficit de communication au niveau du gouvernement. Ce n'est pas comblé à 100%, mais il me semble qu'il y a un effort qui a été fait dans ce sens. Mais deuxième sujet, c'était le budget en début de semaine. Le journal de Kinshasa n'en a pas beaucoup parlé. L'écart des langages, s'il faut le dire ainsi, qu'il y a eu entre le Premier ministre Mozito et le président Vital Kamerhe, qui a même ramené le Premier ministre sur le bon chemin. Ça arrive très rarement de voir un Premier ministre. Gizeng est passé par deux fois à l'Assemblée nationale. Les choses n'étaient pas non plus faciles, mais Vital Kamerhe s'était réservé. Mais cette fois-là, à un moment, ils ont même forcé la parole entre Vital Kamerhe et le Premier ministre. Il semblait que les gens avaient écrit sur ça, mais beaucoup n'ont pas écrit, même pas pour en détail.
Non, il n'y a pas que nous, il y a Le Phare, il y a presque tous les journaux ont écrit sur ça. Un petit commentaire là-dessus, c'est que autant le président de l'Assemblée nationale a fait des remarques au Premier ministre, autant, à mon avis, il aurait dû le faire dans le même terme à certains députés de l'opposition, ne généralisons pas non plus. Parce que la difficulté que nous avons dans ce pays, c'est que on a le référentiel Mobutu fait qu'on a considéré à un moment donné que le pouvoir est une vertu, et l'opposition est une vertu et le pouvoir un vice.
Voilà. C'est pas le thème de l'émission de ce soir. Nickel Kibelbel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'éditeur du journal Les Coulisses, spécialisé, comme je le disais, dans le traitement des informations relatives à la région de Grand Lac. Votre petit commentaire également par rapport au traitement de l'actualité par les journaux kinois cette semaine.
Oui, disons que, vu de loin, les confrères ont bien traité l'actualité. Seulement, nous aurions voulu qu'ils parlent aussi de l'occupation du nouveau bureau du chef de l'État au palais du peuple, parce que tout le monde était unanime à condamner cette violation de la Constitution, mais aussitôt qu'il le reçoit, personne ne se lève plus ce point-là.
Voilà, on en a déjà parlé d'ailleurs dans l'une des tribunes de la presse. Passons maintenant à notre premier thème, le premier rang des négociations entre les délégués du gouvernement et ceux du CNDP ont été suspendus par la facilitation hier jeudi à Nairobi au Kenya. Les discussions de fond entre la délégation officielle congolaise et le CNDP débuteront le 17 décembre prochain. C'est qu'a annoncé la facilitation hier jeudi dans un communiqué de presse. Et selon le facilitateur Olusegun Obasanjo, les deux délégations ont fait des progrès importants lors de ces premières concertations sur les termes des références dans les prochaines discussions de fond. Notre envoyé spécial à Nairobi, Nasser Nkoko, nous en parle.
Au terme de ces premiers rounds de discussion, la facilitation a réuni aux deux parties le thème des prochains pourparlers des fonds ainsi que le calendrier des prochaines activités. Cependant, toutes les sessions de forme n'ont pas été vidées et des présences de vie demeurent sur deux choses. La première, la nature de la crise. Le CNDP qui parle de résoudre une crise politique globale se bute à la délégation gouvernementale qui évoque la résolution d'une crise sécuritaire et humanitaire en Nord-Kivu. Cette dernière option est aussi celle de la facilitation qui évoque son mandat tel que le décide le comité de la conférence des chefs d'État du 17 novembre passé à Nairobi qui convoque ces négociations. Autre point de divergence à régler, la participation des personnalités politiques du pays dans sont les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat aux prochaines discussions. La délégation gouvernementale, qui s'appuie sur le mandat de la facilitation, rejette cette demande du CNDP. En convoquant le second round du 17 décembre prochain, la facilitation veut sans doute se donner un peu plus de temps pour d'autres consultations en coulisses, mais comme au cours du premier round de ces concertations, il faudra beaucoup de pression de la communauté internationale pour que ce second round du dialogue ramène réellement la paix au Nord Kivu. Nairobi, Nazan Koko, Radio Kapi.
Je vais Nawej, les négociations avaient débuté lundi, finalement, les deux délégations se sont rencontrées, malgré la petite hésitation au début du gouvernement congolais.
Oui, ils se sont rencontrés. Mis à part les positions de principe, vous savez, on a quand même couvert beaucoup de négociations. Quand on va aux négociations, tout le monde a tendance d'abord à monter les enchères de manière à ne pas négocier en position de faiblesse. Et mis à part ces problèmes de principe, votre correspondant à Nairobi vient de le dire ici, il y a un vrai quiproquo sur la nature de ces négociations. Ces négociations doivent porter sur quoi? On l'a vite vu, et que, au fond, ce que Kunda veut, et les CNDP d'une manière générale, c'est qu'on refasse Sun City, une espèce de Sun City bis. C'est que le gouvernement dit non. C'est le gouvernement qui parle, je suis issu des urnes, donc je ne peux pas me faire rassurer au risque de me remettre en question. C'est tout le problème est là.
Voilà. Thierry Lédicard, votre réaction également par rapport à ces négociations qui ont finalement commencé,
C'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un mois par là, ici à Kinshasa, on n'espérait pas un jour voir le gouvernement congolais en face des interlocuteurs du CNDP. Il y a le ministre sortant de la Défense, Tshikese Diemo, qui jurait une semaine avant que le CNDP ne soit à quelques kilomètres de Goma, qu'il n'y aura jamais de discussion directe, qu'il y ait des négociations directes aujourd'hui. C'est un gros pas vers la paix, mais la paix n'est pas encore là. Ce que je salue encore, c'est le fait que pour une fois, le cahier de charges du CNDP soit, on ne peut toucher là, parce que depuis tous ces temps, personne ne savait bien ce que le CNDP voulait. Au début, on parlait des revendications en termes de minorités tutsi, du rapatriement de réfugiés tutsi. Aujourd'hui, au moins, ils parlent de la politique, ils parlent des questions de politique nationale, économique, et pourquoi pas sociale. Ça devient de plus en plus clair, et à partir de là, on peut essayer de commencer à vider point par point.
Mais le CNDP voudrait une négociation sur les problèmes globaux de la RDC au lieu de se focaliser sur le Nord Kivu, comme cela a été entendu par les médiateurs, également la facilitation.
Non, je n'ai jamais été pour ces élections organisées en 2016 sans plus de démocratie du Congo, parce que nous savons ce qu'elles ont été, notamment ici à Kinshasa. Il y a des députés qui n'ont jamais été élus, qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale.
Ça
n'engage moi. On a vu ce qui s'est passé avec des recours et des recours. Ça veut dire pas qui a à boire et à manger dans ces élections, mais quand même ces élections ont constitué un pas. Pour qu'un enfant marche, il ne faut pas qu'on lui demande de faire 10 pas le premier jour, on fait un pas, on fera un deuxième. J'espère que mon pays, la République démocratique du Congo, va organiser des élections d'ici 2 ans meilleures que celles de 2006, et pourquoi pas dans 10 ans encore mieux arriver au niveau de pays de la démocratie. Mais dire aujourd'hui qu'on recommence à zéro, c'est beaucoup demandé.
Merci. Nickel, c'est Bébel, votre commentaire également par rapport à ces négociations qui ont quand même commencé.
Oui, il faut rappeler que certaines personnes, parmi les reproches qu'ils avaient faites au dialogue intercongolais, c'était que le dialogue intercongolais avait traité le problème du Congo de façon globale. Et il ne s'était pas arrêté au problème spécifique du Kivu. Donc la conférence de Goma avait cet avantage de ne traiter que le problème du Kivu, donc le problème spécifique du Kivu. Alors, aussitôt que la conférence de Goma a été tenue et le processus continue, aller à Nairobi semble un peu discordant, dans la mesure où, pour ceux qui suivent un peu l'histoire, ils peuvent canaliser les recommandations du CNDP. Les recommandations du CNDP ne datent pas d'aujourd'hui, et contrairement à ce qu'ils ont présenté à Nairobi, au niveau de l'Est, tout le monde sait que le CNDP pose un problème d'espace vital accordé aux rwandophones. Alors tout ce qui reste là, c'est pratiquement des manœuvres dilatoires.
Mais ils ne le disent pas, ils ne l'ont pas dit.
Nickel, ils n'ont pas dit.
En fait, clairement, son problème devant les populations de l'Est.
Voilà. Mais il y a quand même une lueur d'espoir, comme les négociations, non, les deux délégations se sont rencontrées, parce qu'à un certain moment, il était difficile de croire que les deux délégations pouvaient se rencontrer. Il y a quand même une lueur d'espoir dans ces négociations.
Il n'y aura pas de lueur d'espoir, ils vont tourner en rond, parce que vous allez constater qu'au fur et à mesure qu'ils vont progresser, ils arriveront à des blocages. Bon, le vrai problème, comme nous le soulignons, c'est un problème d'espace vital à accorder à une certaine population rondophone. Ce problème, on ne le pose pas clairement, on tourne en rond, et finalement, on perd le temps. Vous verrez, le temps, l'avenir nous donnera raison, il y aura d'autres problèmes qui vont se lever au cours des négociations. Donc, à un certain niveau ici, on dit que ça, pratiquement, c'est du temps perdu.
Merci beaucoup. Jovine Nawej, je rappelle que vous êtes l'éditeur du quotidien Quinoa Forum des As. Certains analystes disent que les revendications du CNDP sont évolutives. Finalement, ils évoluent au fur et à mesure que leurs troupes avancent. Est-ce que vous partagez le même avis et que elles sont vouées, ces négociations, à l'échec?
Oui, non. Le problème, c'est qu'on doit enlever le vernis. Je crois que notre confrère qui est Belbel, qui suit cette actualité de l'Est depuis, si je ne m'abuse,
Béni.
De l'Est, d'une manière générale, il est là, Béni, c'est vrai, mais il suit ça depuis une dizaine d'années. Et Nikez a vu la rébellion du RCD, il a vu la rébellion progresser, toutes les rébellions, il les a vues. Il est en train de mettre les doigts dans la plaie pour répondre à votre question. C'est que, fondamentalement, les revendications d'un Kunda du CNDP ne sont pas différentes des revendications que brandissait en 1998 le RCD. Ce n'est pas non plus fondamentalement différent des revendications identitaires que brandissait le Banyamuleng dans le cas de l'Afdel. Le vrai problème que nous avons chez nous, c'est que nous prenons les choses de manière superficielle. Nous devons toujours, comme analystes, nous avons le devoir d'avoir la culture historique. Nous avons affaire à un remake de l'épopée Afdel, à un remake de l'aventure RCD, sauf que cette fois-ci, celui qui est en tête, c'est Nkunda. Le vrai problème, vous avez vu quand Nkunda a commencé, la revendication était d'ordre identitaire.
Mais les revendications identitaires ont déjà trouvé solution dans la Constitution.
Oui, mais justement, là, vous êtes en train de nous amener dans le fond. Ça signifie quoi? Si les revendications identitaires ont déjà trouvé solution, moi j'ai été à Sun City, j'ai lu notre Constitution, et aujourd'hui, quand vous voyez dans la configuration, nos compatriotes Banyamuleng sont représentés dans les institutions. C'était ça la revendication. La nationalité leur a été accordée. Donc vous êtes en train de dire vous-même que le combat de Kunda par rapport à la démarche identitaire n'a pas d'objet. Et ça nous ramène à la question fondamentale que de qui je viens de relever, c'est l'espace vital. Est-ce que cet espace vital va se faire en contradiction avec l'ordre politique issu des urnes? Je suis heureux de voir que même Thierry, qui a critiqué les élections, vous savez, il n'y a pas d'élection juste.
C'est vrai,
non, je termine, c'est important. Je suis en train de dire ceci, c'est que est-ce que cette revendication identitaire va se faire au détriment de l'ordre politique issu des élections de 2006, ou cela va se faire au détriment de la cohabitation entre différents peuples qui sont au Kivu? On a tendance à croire, à réduire le problème du Kivu entre rwandophones et congolais des sources, si vous voulez que je m'exprime ainsi. Non, au Kivu, il n'y a pas. Les Congolais, c'est plusieurs ethnies au Kivu. Tout comme les Tutsis, c'est une ethnie, et les Hutus, c'est une autre ethnie.
Voilà. Thierry, est-ce que vous pensez que finalement on va aboutir à une sorte de Sun City bis en remettant en cause les élections qui ont eu lieu, que vous contestez bien sûr, et mettre peut-être en place un gouvernement, je ne sais pas, d'Union nationale ou je ne sais comment on va les nommer, tels que les négociations se passent actuellement?
Je ne pense pas, et puis ce n'est pas tellement le moment, hein, mais ce que Thérèse de Dutre a dit à la fin de la transition, que la pré-transition serait égale à la transition. Pourquoi ? Parce qu'il voyait bien au bureau à vice-premier ministre, au ministre d'État, je ne sais pas quoi, après les élections, mais ceux qui ont gagné les élections ont pensé autrement, et puis je ne sais pas si Roubaix-Roi, par exemple, est encore demandeur, si l'EML est encore demandeur, je ne pense pas. Il y a que l'UDPS qui l'a dit officiellement, qu'il fallait un gouvernement national, et puis ils ont été appuyés, l'UDPS a été appuyé par la Conférence épiscopale nationale du Congo, mais je ne sais pas s'il y a encore des gens qui pensent qu'il faut aller travailler avec, avec le pouvoir actuel, qui a déjà échoué 2 ans après. Je ne crois pas que ce soit utile. Mais je voulais passer plutôt 2 petits mots par rapport à ce que le confrère Nicaïd et José venaient de dire tantôt là. Je ne pense pas qu'il y ait encore quelqu'un qui puisse réussir à faire ce que l'appel a fait. Et puis, je suis beaucoup d'analystes, même sur le plan local ou sur le plan international. Ce genre d'aventure-là, ça s'est fait une fois, il n'y en aura plus. Même lui-même Kunda, si il avait la capacité, les capacités, il aurait pu entrer sur Goma et essayer de continuer peut-être vers Bukavu. S'il ne le fait pas jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que c'est difficile et peut-être, moi je ne crois même pas que quelqu'un peut faire encore la même chose que Laurent Désiré Kabila qui fait Goma pour aller à Kinshasa. Ensuite, l'idée d'espace vital pour les Tutsi ou tout ça, c'est de l'aventurisme aussi. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ont beaucoup de problèmes. Beaucoup n'aiment pas les présidents Kabila, beaucoup ne sont pas d'accord avec sa façon de gérer, mais beaucoup, presque tous les Congolais sont d'accord que la République démocratique du Congo doit rester une et indivisible. Pour ça, que Kagame, que les Rwandais se sont dans l'aventure, je considère que ce ne sont que des aventures. À aucun moment, les Kivu ne sera pas République démocratique du Congo. Et c'est là que j'interpelle notre gouvernement, parce que c'est au gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre à bras le corps cette question, avec des négociations au niveau le plus élevé, du lobbying, tout ça, pour expliquer au monde entier que ce n'est pas nous, Congo démocratique, qui avons demandé que le président Gérimana soit tué, ce n'est pas nous qui avons demandé qu'il y ait plus d'1 million de réfugiés sur notre sol. Le problème rwandais, ils doivent le régler entre eux, et peut-être par là, nous aussi, Congolais, régler nos problèmes entre nous.
Voilà, donc vous disiez que beaucoup n'aiment pas le président Kabila, mais il a quand même des partisans, hein, certains l'aiment aussi. Hein. Oh,
beaucoup l'aiment.
Voilà, pour rééquilibrer les choses. Nicaïd, quelle solution envisagez-vous pour ces négociations, afin de mettre fin à cette crise à l'est du pays?
Il faut dire que le général Laurent Kunda pose un problème sérieux. Et toutes les fois qu'il en parle, il en parle avec sérieux. Il n'a pas besoin de prendre Goma. Il n'a pas besoin de prendre Kanyabayonga. Il n'a même pas besoin d'être Premier ministre. Il pose un problème d'espace, un problème qui est vital. Et même les Occidentaux, notamment les Belges, ils connaissent le vrai problème. Lui, Michel, a dit un jour que la solution est à 95% congolaise. Donc c'est un problème d'abord des Congolais. Et c'est ce qui explique aussi en amont les tergiversations à envoyer les troupes. Donc c'est un problème qu'il pose, qui est un problème d'espace. Je dis pour les rwandophones, je ne dis pas pour les Tutsis. C'est-à-dire que les populations Hutu et Tutsis ont besoin d'espace, et pour elles-mêmes et pour les bétails. Mais il faudrait qu'on négocie pour qu'on leur donne cet espace-là qu'ils réclament, mais bien sûr en posant des problèmes de façon indirecte.
Mais on
a trouvé la solution. Je ne suis pas vraiment en mesure de proposer. Est-ce que par les négociations, est-ce que par les armes? Les armes ne résolvent pas le problème, sûrement par les négociations.
Mais Nicaïd, rapidement, on va conclure avec vous. La question de l'espace vital, le Congo est grand, il n'y a pas que le Nord qui vous, ils peuvent aussi se déplacer dans tout le Congo.
Oui, le reproche qu'on fait à ces populations, c'est d'avoir un pied dedans, et un pied dedans au Congo, un pied dedans au Rwanda. Et si je peux utiliser le style footballistique, ce sont des joueurs qui jouent à la limite. Bon, même des fois, pas ils glissent hors périmètre, mais ils sont à l'intérieur. Ce combat identitaire bénéficie de l'appui du Rwanda, de l'appui de l'Ouganda et de l'appui du Burundi. Ils veulent garder l'homogénéité de leur culture ou de leur identité. C'est comme ça qu'ils n'accepteront pas de se déplacer, d'être amenés loin des frontières.
Merci.
Je t'explique aussi le mixage. C'est une lecture qu'il faut faire qui exige de prendre en compte toutes les tergiversations qui ont eu lieu durant toute la, disons, la dernière période que nous traversons.
Merci. On va conclure. Hein. Je vais en 30 secondes des solutions, des propositions des solutions et on va et ensuite ce sera le tour de Thierry.
Oui, non. La solution, elle est d'abord congolaise. Elle est depuis longtemps congolaise. Tant que l'administration congolaise, au sens profond du terme, administration, ça implique l'armée, ça implique les services de sécurité, ne sera pas forte, on subira toujours le contre-coup de la crise rwandaise. Et Nikes est en train de le dire, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour dire ça, ne prenons pas non plus Kunda comme un homme autonome. Kunda n'est pas autonome, c'est pourquoi j'ai parlé de du remake de l'Afdel et du RCD. Ce n'était pas par rapport, contrairement à ce que Thierry dit, l'objectif de prendre le pouvoir.
Non, remake, ça veut dire recommencement.
Oui, c'est le même problème avec le même problème espace vital. Mais le problème d'espace vital, c'est l'administration qui règle ça, ce n'est pas les citoyens. Sinon, il y a beaucoup de citoyens qui ont des problèmes d'espace vital dans ce pays. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que nous avons, il nous faut qu'on renforce notre administration et que, par ailleurs, qu'on négocie clairement avec le Rwanda un modus vivendi. Parce que, en réalité, ce qui se passe à l'Est, c'est quoi? C'est que l'Est est devenu l'exutoire des conflits ethniques, Nikes l'a dit, au Rwanda, au Burundi et dans une certaine mesure, à l'Ouganda.
Merci. Et nous avons également vu le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC se rencontrer dernièrement à Goma pour, rétablir les relations diplomatiques. Quelle est la solution que vous proposez, Thierry?
Le Rwanda ne sera jamais sincère avec nous, mais pour avancer...
Pourquoi?
Non, parce qu'ils n'ont pas envie que les FDLR puissent rentrer au Rwanda. Ils ont peur d'eux, ils n'ont pas de solution à ce problème-là. Là, ils ne jouent pas son jeu. Mais de notre côté, il faut toujours montrer les signes de bonne volonté. Parce que ceux qui meurent là à l'est du pays, les déplacés, ce sont des Congolais. Quand Kunda fait ses caprices en disant nous ne voulons pas des maïmaïs, bon, concédons et avançons, ce sera le plus important. Maintenant, ils commencent à dire que le président Vital Kamerhe, que le président Kengo aille à Nairobi. Si ça ne coûte rien à la République démocratique du Congo, amenons le président Vital, amenons le président Kengo. Question de faire que les Congolais soient dans la paix.
Merci. Nous espérons qu'il y aura une solution à l'issue de ces négociations. Dans notre second thème de ce soir, nous aborderons les 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En RDC, la situation des droits de l'homme reste préoccupante au vu de différents rapports publiés par différentes organisations. Il y a notamment celui des ONG Human Rights Watch. Les tableaux des droits humains RDC est sombre. Ce sont les propos de maître Jean-Joseph Moukeliwa Mulumba, avocat à la Cour suprême de justice, et secrétaire exécutif de l'Institut des droits de l'homme des barreaux congolais et membre du comité exécutif de l'UDPS. Il estime qu'il y a un manque de volonté politique de la part du pouvoir en place pour améliorer la situation des droits humains en RDC. On écoute maître Jean-Joseph Moukeliwa Mulumba lors de son intervention dans l'émission Dialogue entre Congolais de mercredi dernier. Il était interrogé par notre confrère Jean-Claude Toumba Samanga.
Quelque part ici à Kinshasa, au centre judiciaire, il y a un cachot où lorsqu'on veut vous torturer, on va d'abord y mettre beaucoup d'urine pour vous mettre dans un conditionnement tel que vous puissiez demander à quitter ce lieu-là, moyennant ce que vous savez. Et cela s'est fait il y a 2-3 jours encore avec ces personnes. Dans les cachots, il manque notamment des lieux d'aisance. On met les détenus dans des conditions telles que vous êtes obligé de débourser pour que vous dormiez dans des conditions normales. Tout ça, c'est ça qui fait que le tableau des droits humains dans notre pays est noirci. Avec un minimum de volonté, on peut voir au moins qu'on va de l'avant. Tout le monde devait au moins se dresser. Fini les discours, qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement? Améliorer les cachots et mettre fin à la corruption, la petite corruption, sont des problèmes qu'on peut régler au quotidien. Donc il y a une volonté politique qu'il faut imprimer.
Tout en reconnaissant l'existence des problèmes de dysfonctionnement dans les secteurs juridiques congolais, le ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement Lambert Mende estime néanmoins que plusieurs initiatives ont déjà été mises en marche par le gouvernement congolais en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme en RDC. Lambert Mende intervenait aussi dans l'émission Dialogue entre Congolais de mercredi dernier, toujours au micro de notre confrère Jean-Claude Toumba Kamanga.
C'est vrai qu'il y a un problème infrastructurel, c'est vrai qu'il y a un problème dysfonctionnel, mais ce n'est pas la volonté du gouvernement. Et en tout état de cause, il y a eu des initiatives importantes des différents ministres de la justice qui se sont succédés ces dernières années d'essayer de vider le monde carcéral, de voir un peu tous ces prisonniers qui sont là sans que le droit ne permette qu'ils y soient, qu'ils puissent sortir. Et j'ajouterai que nous avons un système de séparation des pouvoirs dans notre pays et que le gouvernement peut difficilement répondre de la responsabilité qui incombe au pouvoir judiciaire. Nous estimons qu'il appartient à tout le monde, les citoyens, les ONG, les avocats, le Parlement, aussi bien que le gouvernement, de faire en sorte que la justice puisse se faire tant que les droits des citoyens qu'elle est censée garantir ne soient violés par son fait.
Mais le pouvoir, c'est d'abord vous qui le détenez, hein, monsieur.
Nous sommes au pouvoir exécutif, nous n'assumons pas le pouvoir judiciaire.
Nikes Kibelbel, je rappelle que vous êtes l'éditeur du journal Les Coulisses, spécialisé dans les traitements des informations relatives à la région des Grands Lacs, et vous intervenez à partir de Béni en Nord Kivu. Au vu de ce tableau, dressé notamment par maître Jean-Joseph Mukendi, est-ce que la RDC peut-être aujourd'hui fière, peut péter avec fierté les 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme?
Écoutez, il faut peut-être que j'intervienne à deux niveaux, vu de loin et vu de près. En parlant de nous qui vivons dans les anciens espaces occupés par les rébellions, nous pouvons dire qu'il y a une lente évolution, il y a une lueur d'espoir. Ne fût-ce que simplement le fait d'avoir, disons, permis la libre circulation des personnes et de leurs biens. C'est déjà quelque chose. Mais parlons des prisons, parce que souvent les droits de l'homme, on ne les résume qu'à partir de ce qui se passe dans les prisons. Voilà ce qui se passe à Kinshasa avec Paris. Officiellement, Kinshasa n'est pas en guerre. Voilà le nombre d'armes que Paris récupère. Prenez ces cas, transposez-les dans les régions qui sont en conflit. Donc, nous avons un problème très 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 sérieux de droits de l'homme, et dû pratiquement à un passé que nous avons tous hérité. Et que pas par une baguette magique qu'on peut résoudre. Quant aux prisons, presque toutes les prisons sont vétustes. Or, il y a une certaine démographie galopante des crimes. On se retrouve dans des prisons de veuve avoir 30 personnes ou 50, on est à 500 000. C'est un problème réel. Mais il y a aussi le vrai problème. Moi, je pense que le vrai problème, c'est l'impunité, c'est la justice. Parce que si la justice avait travaillé, tourné normalement, nous serions peut-être à 40% de satisfaits des droits de l'homme.
Merci. Voilà, Thierry Lébica, vous êtes rédacteur en chef de Canal Kin, une chaîne de télévision émettant à partir de Kinshasa. Votre commentaire aussi par rapport à la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo.
Je suis parfaitement d'accord avec Maître Mukendi quand il dit qu'il y a un manque de bonne volonté. Je vais y aller par un exemple tiré du rapport de Human Rights Watch, le cas...
Un rapport contesté par le gouvernement.
Oui, très bien. Je prends un exemple, vous verrez la suite. Les cas de personnes originaires de la province de l'Équateur. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour démontrer que les origines de l'Équateur ne sont pas en danger dans leur pays? Rien du tout, à part une conférence de presse. Et pourtant, il y a 10 000 façons de démontrer que le gouvernement en place n'a rien contre les origines de l'Équateur. Tout simplement, le chef de l'État pourrait aller à Mbandaka, y passer 3 jours, résoudre quelques 2-3 petits problèmes. À son retour, on aura les faits voulus en disant « Oui, voilà, le président Kabila n'a rien contre les Équatoriens. » Mais au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On fait une conférence de presse et 2 jours après, la situation révèle comme telle.
Mais le gouvernement dit qu'il ne faut pas ethniciser ou tribaliser un problème judiciaire.
Je suis d'accord avec le gouvernement. Ce que vous me dites là, ce n'est qu'un discours, mais dans le fait, qu'est-ce qui se passe? Human Rights vous dit que vous arrêtez beaucoup de personnes bandales. Moi, si je suis mis sur les droits humains, je sortirai même la liste des 2000 détenus du CPRK, par exemple, et je dirai, tel est du Bandundu, on verra concret. Si les gouvernements ne les fait pas, moi je présume que ceux qui disent cela ont raison.
Mais le gouvernement a promis une enquête, hein,
mais pour dire c'est leur enquête. Dans ces pays, vous connaissez les enquêtes, mon frère. Quelles enquêtes? Vous lancez quelque chose des enquêtes, non? Par la suite, hier, le président de la République a reçu les députés de l'Équateur. J'ai suivi les rapporteurs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les chefs de l'État vont prendre en compte toutes les revendications, il va voir qu'est-ce qui se passe réellement à ce propos. Est-ce qu'il fallait que les députés de l'Équateur aillent voir le chef de l'État avant qu'on puisse mettre à l'aise les gens de l'Équateur?
Merci.
C'est là le gros problème. Le gouvernement n'a pas seulement un problème de manque de volonté, mais aussi un grand problème de sommeil et beaucoup de ministres ne savent pas ce qu'ils devaient faire.
Merci Thierry. Jovenel Nawel, je rappelle que vous êtes éditeur du quotidien Kinois, Forum des As. Est-ce que vous avez le même regard que Kibelbel et Nikes Kibelbel et Thierry Lébita?
Oui, mais plus fondamentalement, je dirais d'abord ceci, que les droits de l'homme, c'est un problème de culture. Ne demandez pas à une nation comme la nôtre qui sort, pas qui sort, qui sort à peine d'une longue période de dictature, disons les choses telles qu'elles sont, encore que les séquelles de cette dictature sont encore là, d'une part, et d'autre part, ne demandez pas à une nation comme la nôtre, comme tous les pays africains, où l'infrastructure en termes de développement n'est pas encore au point, de respecter les droits de l'homme comme on les respecterait en France, aux États-Unis.
Non, mais c'est déjà porté, par exemple, certains qui ont été torturés,
non,
à Perse, qui est innommable.
Non. Il y a un philosophe français, Jean Cocteau, qui disait « Juger, c'est refuser de comprendre. » Plutôt que de juger, les jugements, vous savez, il est facile. Il faut d'abord chercher à comprendre. D'où venons-nous? Nous sommes où? Je ne suis pas en train de dire ici et que la situation des droits de l'homme doit rester telle qu'elle est.
Est-ce que c'est amélioré, cette situation, depuis les élections, par exemple, de 2006?
Non, c'est difficile de quantifier ce que Thierry dit. S'il y a des arrestations en rapport avec les origines des gens, ça, c'est une atteinte terrible des droits de l'homme. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que quelqu'un est de l'Équateur ou du Katanga, je suis très mal à l'aise quand je parle des ethnies ou du Bandundu, etc. Il ne faut pas qu'on croie qu'il y a une province qui aurait le monopole de la vertu et une autre ou un peuple qui aurait le monopole du vice. Quand nous entrons là-dedans, nous faisons ce qu'on appelle, nous sentimentalisons les choses et ça c'est le propre des Congolais.
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer?
Non. Ce qu'il faut faire, c'est encore une fois renforcer l'administration, renforcer l'état de droit. Qu'il y ait une culture, ça doit venir avec le temps. Mais encore une fois, il faut que cet État-là ait les moyens de lutter contre les droits de l'homme. Maintenant, le problème, c'est que oui, les droits de l'homme ne sont pas non plus réductibles au seul fait qu'on a arrêté tel ne parle pas. Mais il y a des droits fondamentaux parce que ces droits-là ont une histoire. Nous sommes en 1789. Quand il y a la Révolution française, non, il faut que nos auditeurs comprennent ce que nous disons, sinon nous restons sur la surface. Après la Révolution française, il y a eu cette déclaration des droits de l'homme qui a été récupérée en 1948. Mais ces droits de l'homme-là ont une histoire, ils ont eu une idéologie. C'est le monde libre, à savoir le monde occidental, qui a fait la promotion de ces droits de l'homme par opposition aux droits des peuples, qui est un thème important qui a été développé par les pays qui étaient à l'époque sous l'emprise, disons, qui étaient à l'est sous l'emprise de l'Union soviétique. Mais maintenant, reporté à notre situation aujourd'hui, les vrais droits de l'homme, mais on a tendance à l'oublier, les chèques que vous voyez en cours de route, les gens qui ne mangent pas, les massacres à vaste échelle qui se fait à l'est, et nous tous, nous voyons ça chaque jour. Mais il n'y a pas meilleure violation des droits de l'homme que celle-là. C'est-à-dire que en plus des critiques qu'on met souvent, nous, dans la presse, qu'elle a été arrêtée, Thierry a été inquiété, c'est bien d'alerter le gouvernement sur ça. Mais c'est encore mieux par rapport à nos pays en développement d'alerter les gens sur le droit à la nourriture, au logement, qui me paraissent des droits fondamentaux.
Ils sont souvent oubliés.
Et à l'éducation, pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien aux droits de l'homme.
Vous parlez devant le micro.
Si vous n'avez pas un niveau d'instruction suffisant, comment que vous voulez-vous professer les droits de l'homme à la maman qui est en machine, qui vend les beignets, si elle ne sait pas lire?
Merci.
Il faut d'abord qu'elle accède à la culture, à l'éducation, pour savoir c'est quoi les droits de l'homme.
Merci. Thierry, Nawé, j'ai élargi les droits de l'homme, parce que souvent on parle d'arrestation, mais il y a aussi le droit à la santé, le droit à l'éducation. Est-ce que le Congolais peut un jour espérer jour de tous ses droits?
Je suis d'accord avec lui quand il dit que le droit de l'homme, c'est pratiquement un but qu'il faut atteindre parce que des pays de vieille démocratie comme les États-Unis ou Guantanamo, en France, il y a moins d'une semaine, un confrère de la libération a été menotté. Ce sont des choses qui arrivent, mais en République démocratique du Congo, il ne faut pas que le grand frère José puisse parler de la nourriture et des arrestations qu'on peut facilement régler. On a dit ici, je vais revenir sur les Bandas, je n'ai rien, je ne suis pas Mongala, je ne suis pas pour eux.
Il ne faut pas pluraliser le débat.
Hein. Sans problème. On a vu ici à Kinshasa des politiciens, je peux en citer des noms, Jean-Baptiste Bomanda, par exemple, qui a fui Kinshasa pour aller se réfugier à l'Équateur, soi-disant que pendant un moment, on était en train de rechercher des Bandas. Ça, on peut facilement éviter cela. La nourriture, ce sera difficile, il faut un budget. L'école, il faut plus d'un million de dollars pour payer les minerais à tout le monde. Mais faire en sorte que les gens disent je sors avec une photo où c'est qui Bemba, prisonnier politique et qu'on n'arrête pas. Ça, c'est trop facile à faire par rapport à la nourriture qui demande de l'argent et tout ça.
Un petit mot, si vous permettez. Le tout se tient. C'est-à-dire que vous ne demandez pas à un policier qui est mal nourri, qui n'est pas payé,
Hein, il faut suivre sa philosophie. Vous ne demandez pas à un policier qui n'a pas son salaire d'être vertueux. Mais les droits de l'homme, c'est aussi les habits de nos policiers, même des policiers de roulage. Mais pourquoi ils t'arrêtent quand tu as tous les documents? Merci. C'est parce qu'il n'est pas bien payé. Donc, il ne faut pas banaliser la question de l'accès à la nourriture, de l'accès. Il faut avoir des infrastructures. Je suis en train de dire, de conclure simplement,
qu'on
n'imagine pas les droits de l'homme dans un contexte de pauvreté absolue comme le nôtre.
Vous l'avez déjà dit. On va conclure cette page avec Nickel Kibelbel.
Oui, le problème que nous avons au Congo, c'est qu'on passe plus aux dénonciations. Il y a une multitude d'ONG qui ne font que dénoncer droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. Mais comme l'a dit José, c'est une éducation, c'est un combat perpétuel, c'est une promotion. Et ce qui est aussi grave, aujourd'hui, ce sont les opposants qui donnent des leçons des droits de l'homme. Mais ils ont oublié ce qu'ils ont fait aux populations quand ils avaient des armes.
Dans la rébellion.
Donc, nous avons un problème de culture. Il faut que les Congolais puissent apprendre ce que c'est la culture des droits de l'homme. Et avec le temps, nous pourrons espérer arriver à vivre plus ou moins heureux, plus ou moins dans la paix et la sécurité.
Merci. Merci. Le troisième et dernier thème de l'émission de ce soir est la crise financière qui frappe déjà le secteur minier en RDC. Après Katanga Mining et Anvil Mining, c'est au tour de Forest de manifester son essoufflement suite à la chute du prix de cobalt sur le marché international. Le groupe prévoit notamment de fermer d'ici une semaine sa filiale CMSK, compagnie minière du Sud Katanga. Selon les responsables du groupe Forest, cette fermeture est temporaire. Quant au ministre provincial des mines du Katanga, il annonce que les signaux sont au rouge dans les secteurs miniers dans sa province. Selon Mumbagama, 300 000 emplois sont menacés dans environ 90% des entreprises minières du Katanga. Le ministre provincial des mines du Katanga pointe du doigt notamment le prix des métaux sur le marché international. Mumbagama était au téléphone de notre conseiller Kéline Côté.
Les prix des métaux qui ont avoisiné pour le cuivre 8 000 $, aujourd'hui est descendu à 3 000. En termes de valeur, c'est une grande perte, 5 000 $ de perdu. Et le cobalt qui avait atteint 50 $ la livre, aujourd'hui se marchande à 10 $ la livre. Donc ça fait 40 $ de perdu. Alors cela a une conséquence sur le coût de production. Du fait que le prix des métaux était très élevé, même les mines qui étaient moins riches ont été mises en exploitation. Mais avec le cours des métaux actuels, il n'est pas possible de continuer à exploiter des gisements qui ne sont pas très riches parce que le coût est plus élevé que le prix. Alors cela a des conséquences. C'est que certaines sociétés ont fermé. Sur ces 37 unités de traitement, il y en a 45 qui ont fermé, 15 qui ont ralenti complètement leurs activités. Et cela, ça entraîne des licenciements massifs des travailleurs, la suspension des sous-contrats, les non-paiements des taxes via l'État, la baisse de l'exportation des minerais, notamment quand vous voyez au cours du mois de novembre, on a presque pratiquement pas exporté des minerais. Ça baisse totalement.
Voilà, il ne nous reste que 4 minutes. Hein. José, en une minute, un petit commentaire. Finalement, la crise, certaines personnes pensaient que cette crise n'allait pas frapper la RDC, hein, mais on se rend compte finalement que ça pourrait avoir des conséquences assez graves.
Oui, nous subissons là le contre-coup de la crise financière internationale, parce que la crise, avant d'entamer l'économie réelle, elle était spéculative, elle était liée aux bourses. Or, la plupart d'opérateurs miniers qui sont au Katanga, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, c'est très long, ça relève de ce qu'on appelle de la spéculation, c'est des gens qui n'investissent pas leur argent, c'est des gens qui comptent sur la bourse. Quand la bourse est favorable, ils prennent des titres ici chez nous par des voies mafieuses, je mesure le terme, j'ai été aux mines, et ils le vendent sur le marché international. Maintenant que la bourse est défavorable, maintenant qu'ils ne peuvent plus faire ce combine-là, ils sont obligés de mettre la clé sous le paillasson. Maintenant, ce que je voudrais dire de fondamental, c'est pour conclure par rapport à ce qui se passe au Katanga, c'est qu'on n'a pas tiré les leçons de l'effondrement de la Gécamine, même quand on parlait du boom minier du fait des Skol Mining. Mais malheureusement, si vous demandez aujourd'hui aux gouvernants combien nous avons dans nos caisses du fait de ce relatif boom minier qu'on a connu, il y a combien? Ça repose un problème de gouvernance, ça repose encore les problèmes des droits de l'homme.
Non, il n'y a plus moyen de continuer. Okay. Thierry, en une minute, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour résister à cette crise? c'est possible.
Ce qu'il faut, ce sont de vraies politiques économiques. Ici, tout ce que l'on n'a pas, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que José Navaï venait de dire tantôt là. Il faut de vraies politiques économiques parce que, vous l'avez dit, on pensait que cette crise n'allait pas nous atteindre, mais c'était rêvé parce que quand on disait comme ça, on n'a pas compris, c'est que José vous l'a dit tantôt là, que tout était basé sur la bourse.
Merci, il faut une vraie politique. On va conclure avec vous en 30 secondes, hein, Michel Cibelbel.
Oui, la question que tout le monde peut se poser. Pendant longtemps, la MIBA était en grève alors qu'il n'y avait pas encore chute de matières, disons, de capitaux. La question est simple. 300 000 personnes partent. À qui incombe la responsabilité du chômage? Aux patrons qui n'ont pas su bien gérer ou aux travailleurs? Et ces travailleurs, ce ne sont pour la plupart que des main-d'œuvre qui n'ont aucun contrat avec toutes ces entreprises.
Merci. Merci beaucoup. C'est par vos propos que nous terminons cette émission qui a été réalisée par Pierrot et Lamégi. La technique était assurée par Bob Landou, la mise en onde par William Lungamba. Merci à Jean-Claude Toumbakamanga, Chikim Koutou, Kéline Kouté, Magali Kabale-Banza et Guy Maté qui l'ont préparé. Merci à nos trois confrères et bon week-end chez vous sur Radio Capi. We'll be right back.